Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star,
Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous, les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 de Free, 193 sur Bouygues. On est encore une fois au paradis, on est après la Réunion, on est à Maurice, où va se dérouler l'Aphrasia Bank Mauritius Open et j'ai le plaisir d'accueillir Tom Vaillant, joueur du Tour européen, qui va disputer ce tournoi cette semaine. Salut Tom, comment ça va ?
Bonjour, ça va nickel.
Impeccable, t'es bien arrivé, bien installé, pas trop chaud ?
Non, nickel, franchement, c'est la première fois que je viens sur l'île Maurice, c'est magnifique, le parcours est vraiment top, donc tout est bien.
Et on ne pouvait pas faire cette émission sans Lewis Wallace, qui est l'ambassadeur héritage, où va se dérouler le tournoi. Salut Lewis.
Ouais, merci beaucoup pour l'invitation, très très heureux d'être ici, cadre magnifique, grand soleil, on est au top cette semaine.
Je suppose que ça doit être hyper excitant pour toi et même toute l'équipe d'héritage d'avoir ce tournoi cette semaine sur ce nouveau parcours. On va en parler durant toute cette émission. Ouais. Parcours de la réserve qui sort de terre, qui a été inauguré il y a quelques jours seulement. C'est l'excitation dans les équipes.
On a fait l'ouverture officielle le week-end dernier, figure-toi. Donc on a fait l'ouverture officielle devant notre groupe, devant les membres du golf. Donc vraiment officiellement, ça fait une semaine qu'on est ouvert. Mais ça fait très longtemps qu'on bosse sur ce projet. Comme tu le sais, il y a quelques années, on a quand même accueilli les DP World Tour, mais sur l'autre parcours qu'on a, le château. Et donc du coup, la réserve Golf Links, c'est sa première année d'ouverture, première année, et on accueille déjà le DP World Tour dans sa première année. Donc on est vraiment très très fiers de tout le travail de toute l'équipe et on est impatient de voir le premier tour jeudi.
C'était un pari justement d'accueillir le tournoi dès cette année, dès l'année d'ouverture. C'était un gros pari, un objectif pour les équipes.
Ouais, on voulait montrer dès le départ que l'île Maurice, c'est une destination pour tous les golfeurs, mais avant tout, on mise vraiment sur la performance, de montrer de quoi on est capable aussi en tant que destination et donc de montrer qu'on pouvait accueillir à la fois des joueurs amateurs, mais les meilleurs joueur professionnel du monde. Donc du coup, dans sa première année, le fait de pouvoir confirmer à travers le feedback, parce que Tom m'a indiqué juste avant, là, il en parlera un petit peu ce qu'il en pense du parcours, c'est vraiment phénoménal ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps.
Alors Tom, avant de parler du parcours, un mot avec toi. Tu fais tes premiers pas sur le DP World Tour. On a vu ces images à la finale du Challenge Tour où tu étais très ému de décrocher ce ticket. Est-ce que tu es redescendu un peu sur terre ? Ça y est, tu réalises vraiment et maintenant, ça y est, c'est parti.
Ouais, alors c'est toujours dur de redescendre parce que c'est un rêve d'enfance, donc un accomplissement de toujours, de jouer sur le Tour européen. Maintenant, c'est pas la finalité, donc il faut se remettre au boulot parce que j'ai pas envie de m'arrêter là, de juste être joueur du Tour européen. J'ai envie de gagner des tournois et évoluer au plus haut niveau mondial. Donc c'est une étape, mais c'est clair que l'avoir coché aussi rapidement, c'est très gratifiant.
T'as eu le temps de savourer quand même de cette finale du Challenge Tour ou alors finalement, on le voit là, t'es directement... tu vas jouer ton deuxième tournoi. C'est dur d'enchaîner tout de suite, de réaliser, ou finalement c'est pas plus mal ?
C'est dur en termes d'intensité parce qu'on a tout donné sur la dernière semaine où c'était même les trois dernières semaines où il fallait envoyer le maximum. Et c'est clair que là, repartir sur un tout début de saison où on sait à quel point une saison sur le tour c'est long, il faut prendre du recul, de la patience, prendre un peu de hauteur sur les choses, même si ça se passe pas très bien au début, parce qu'il y a tellement de tournois à jouer que il faut juste être patient, savourer aussi ce que j'ai fait, parce qu'on le fait pas tous les ans des grandes choses comme ça, donc c'est clair que j'en suis fier et j'essaye de profiter.
Premier tournoi, Leopard Creek, tu nous l'as confié tout à l'heure, c'était une expérience incroyable.
Ouais, c'est un parcours exceptionnel, pour moi c'est mon parcours favori dans le monde. Et c'est très dur.
Donc après la réserve, bien sûr, mais non.
Ouais, c'est clair.
Pas de favoritisme. L'Afrique du Sud, c'est quand même l'un des pays qui a les plus beaux parcours au monde.
Ouais, hein, franchement, c'est magnifique. Et c'est clair que c'est un gros test d'entrée. Donc ça m'a remis la tête sur les épaules tout de suite, parce que j'ai fait exprès d'aller sur un parcours très dur tout de suite pour vraiment être confronté au maximum d'intensité et de difficulté. Donc en plus, j'ai eu la chance de faire 9 trous aujourd'hui et voir que le parcours aussi, il est... Enfin, je trouve très dur. Donc voilà, c'est top de pouvoir attaquer tout de suite et de se mettre dans la difficulté.
Lewis, est-ce que ça fait plaisir quand on entend un joueur dire que le parcours est très dur et challenging alors qu'il vient de sortir de terre ?
Ouais, parce que moi je l'ai joué il y a 4 semaines, un peu en avant-première, et je me suis dit, j'attends de voir la confirmation des joueurs, parce qu'évidemment nous on a notre point de vue, mais c'est toujours hyper gratifiant et important quand on a des joueurs de ce calibre qui sont là cette semaine et qui nous donnent leur point de vue. Et en fait, ce qui est intéressant sur ce parcours, c'est pas juste le dessin, mais c'est aussi les conditions météo. Parce qu'en fait, on se trouve, le trou numéro 1, c'est 200 mètres en altitude quand même, le départ du 1. Donc Tom a découvert les 9 derniers, qui sont beaucoup plus bas par rapport au premier. Il va découvrir ensuite les 9 premiers trous avec un peu plus de vent quand il y en aura. Mais vraiment, les scores peuvent être très différents d'un jour à l'autre, dépendant de la météo. Donc ça va être hyper intéressant de voir cette semaine. S'il y a une belle journée, quels seront les scores? Si la météo change, quels seront les scores? Comment la stratégie va changer aussi? Vraiment, c'est un parcours qui peut avoir des opportunités de birdie, mais où il va falloir faire très attention sur certains trous avec du vent, parce que ça peut devenir très compliqué.
Le vent aujourd'hui, tu as vu sur ces 9 derniers trous, il y en avait, qu'est-ce que tu as pensé de ce parcours, en tout cas de l'avant-goût que tu en as eu?
Ouais, il y avait du vent. Alors ce qui est dur, c'est que c'est beaucoup de vent latéraux. Donc ça déjà, c'est sûr qu'on est obligé de s'appuyer sur des côtés. Et ici, les deux côtés, il y a du gros rough. Donc je ne sais pas si c'est balle perdue, mais je pense qu'on est tout de suite pénalisé. Donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Et aussi, il y a des trous où même sur les zones qu'on pense être les plus simples à atteindre, il y a toujours un petit piège. Par exemple, le petit par 4 qui est drivable au 13, il me semble, y a un petit bunker au milieu du green, et pour tous les drapeaux de droite, si on met le drive sur la gauche, qui est la zone à taper,
c'est là où j'étais il y a deux semaines à gauche,
et le chip est impossible avec le drapeau à droite puisqu'il faut passer au-dessus du bunker. Donc tout est bien pensé, il faut vraiment, je pense que ça va être une vraie partie d'échec, même si c'est très long et très dur. Il faut rester patient et juste, en tout cas sur les 9 trous que j'ai vus, accepter de se mettre loin des drapeaux et être patient.
J'adore cette analogie de l'échec, parce que c'est exactement comme ça que je pense au parcours quand j'y suis. On a vraiment effectivement l'impression de jouer aux échecs contre le parcours et contre l'architecte.
Justement, tu parles de stratégie, tu as fait avec Hugo Ponce il y a quelques semaines.
Ouais.
Tu vas nous décrire ce trou numéro 3, où justement tu parles de stratégie, un des trous iconiques de ce parcours.
On est sur le magnifique parcours de la réserve Golf Links, trou numéro 3 qui va rapidement devenir l'un des trous signature. Et ce qui est intéressant sur ce parcours, c'est la stratégie de jeu. Vous remarquerez rapidement lorsque vous allez regarder le DP World Tour, c'est que la stratégie de jeu est un élément indispensable ici, car Pete Matkovic et Lewis Tyson, les deux co-architectes de ce parcours, ont tendu quelques pièges pour les joueurs à la fois professionnels et amateurs, dont le départ de ce trou numéro 3 qui va inciter les joueurs à aller prendre une ligne beaucoup plus offensive qu'ils devraient, car à droite il y a beaucoup de dangers, il y a des bunkers, il y a du gros rough, mais le départ va dans le sens de cette ligne offensive, car on voit qu'il est aligné très vers la droite, vers le green. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, comme je vous l'ai dit, quand on se retrouve sur la partie droite, ça va être très compliqué d'aller chercher un par. Donc que vous soyez amateur ou professionnel, la ligne de jeu va être assez similaire. La seule différence, c'est que les joueurs professionnels vont se retrouver très en arrière par rapport aux Champions Tee, comme on les appelle, que vous allez retrouver sur le DP World Tour, où les seuls joueurs qui vont pouvoir vraiment prendre cette ligne offensive, c'est ceux qui sont confiants dans leur portée de balle avec leur driver, qui vont pouvoir surpasser ces bunkers sur la partie droite du fairway. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller jouer sur les rochers qui se trouvent sur la partie gauche du fairway, ligne beaucoup plus sécure, qui vous permettra de positionner la balle sur le fairway, qui ensuite facilitera les choses pour aller chercher un par, voire même le birdie. Alors, petit conseil, lorsque vous vous retrouvez sur une mise en jeu assez délicate comme celle-ci, je me positionne toujours du côté du danger, là où en fait je ne voudrais pas que la balle aille. Et à partir de là, j'ai tout le parcours qui s'ouvre à moi, parce que maintenant, quand je vais m'aligner à gauche, j'ai beaucoup plus de place pour manœuvrer la balle. Trop souvent, je vois des joueurs qui se mettent en plein milieu du départ ici, qui vont s'aligner en plein milieu du trou, et là, il y a très très peu de chances d'aller positionner la balle où on veut. Donc, belle mise en jeu avec le petit fade en plus, qui est le petit côté bonus parce que ça raccourcit le deuxième coup, où je vais pouvoir attaquer ce fameux Infinity Green ici à la réserve Golf Links, trou numéro 3, avec cette vue panoramique sur l'océan Indien. On a hâte de vous retrouver ici pour une prochaine fois à la réserve Golf Links.
Voilà messieurs, ce trou numéro 3 avec ce green que tu appelles Infinity Green.
Ouais. Green. En fait, ça donne l'impression que le green va tomber dans l'océan. Et on en a. Alors, ça existe dans le monde, mais en fait, nous, on en a vraiment 4-5 comme ça sur le parcours. Et ça, c'est rare. Quasiment, on ne voit jamais des greens comme ça, autant de greens qui donnent l'impression. Donc, c'est visuellement très impressionnant et magnifique.
Tom, quand on est sur ce genre de parcours où il y a, mine de rien, un paysage qui est assez fantastique, c'est difficile de se concentrer, de rester concentré sur sa partie. On a envie de prendre des photos partout, même quand on est joueur.
On a envie de prendre en photo, mais on va les prendre à la reco. Parce
ouais, que, c'est ça.
Après, quand on est pendant le tournoi, on, mine de rien, on est entre guillemets au travail, donc on est concentré et on, voilà, on joue contre un parcours tellement challenging, je trouve, cette semaine, que on n'a pas le droit d'être distrait par même si on a un paysage magnifique, il faut rester dans notre partie.
Quelle est ta méthode quand tu découvres un parcours pour la première fois comme celui-là? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu... Ça va être quoi les premiers réflexes?
Je vais pas faire grand-chose sur les mises en jeu. Je trouve que entre guillemets ici c'est assez, c'est assez clair vu que c'est très long. Déjà il faut driver pratiquement tout le temps. Mais après je vais essayer de mettre des balles partout autour des greens. Imaginer des drapeaux potentiels pendant le tournoi, donc placer soit des tees, soit des petites pastilles. Et donc après je m'amuse à chipper un peu de partout pour repérer un peu les bonnes zones, les mauvaises zones. Et je le marque sur le carnet pour pendant le tournoi je puisse m'appuyer sur les endroits qui soient le plus propices à soit sauver, soit pouvoir avoir une opportunité de birdie sur des par 5.
Est-ce que Tom, quand le soir après avoir fait ta partie de reconnaissance avant le tournoi, est-ce que tu te fais une visualisation sur le lendemain, sur ok si je prends le trou numéro 1 par exemple où je vais essayer d'effectuer un birdie, est-ce que tu démarres du résultat final vers l'arrière en disant bon bah, quelle est la mise en jeu que je dois effectuer à quel endroit pour ensuite avoir un deuxième coup favorable?
Je le fais pas comme ça parce que juste la veille d'un tournoi, je place mes drapeaux sur mon carnet. Donc à partir de ce moment-là, vu que je marque chaque drapeau sur les greens, je mets toujours les bons côtés à jouer. Donc si le drapeau est collé à un bunker, je vais ouvrir. Moi, je fais des petits triangles pour ouvrir les côtés, les bons côtés. Et donc selon les drapeaux, quand ils sont très durs ou voire où il y a des pièges, je vais mettre en avance pour pas être surpris dans le moment présent et pas avoir un manque de lucidité, les options sur le départ qui sont le plus propices à ce drapeau.
Ça c'est juste fantastique, hein. Tu vois, rien que ce qu'il vient de dire là, parce que tu vois ce parcours,
ouais,
comme
c'est
je dis,
intéressant,
si,
ouais.
Quand tu loupes du mauvais côté, t'es tout de suite pénalisé. Donc la chose que je dis immédiatement aux joueurs amateurs, c'est de leur dire comprendre ces dispersions latérales. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre notion de dispersion latérale et que vous tentez un drapeau qui est compliqué et que vous n'avez pas conscience de ce qui vous attend à droite ou à gauche, c'est immédiatement, stratégiquement, c'est pas la bonne idée, quoi. Donc d'avoir en fait Tom qui décrit un peu, bah voilà, par rapport à cette position de drapeau, je vais plutôt créer un triangle ici pour m'offrir une ouverture ici, bah ça c'est stratégiquement, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire ça.
Oui. Ah, donc bien prendre en note. Est-ce qu'on sent la patte de l'architecte, évidemment, l'architecte Peter Malkovich et aussi Louis Oosthuizen,
ouais,
qui sera là d'ailleurs cette semaine. Est-ce qu'on sent la patte du joueur qu'est Louis Oosthuizen sur certains trous, sur cette situation?
En plus, on peut le dire, puisqu'au moment où on tourne, il a gagné.
Il
vient de gagner sur le DP World Tour. Donc, du coup, on a quand même le co-architecte qui arrive vainqueur. Donc, ça, c'est, voilà, ça, c'est pour nous, c'est excellent parce que ça met beaucoup de lumière sur ce tournoi. Donc, fantastique. Louis, si tu veux, sa plus grande contribution à ce parcours, c'est justement les départs. Donc Tom parlait de ces départs, les back tees on les appelle, donc du coup on appelle les champions tees aussi, et il faut savoir que ces champions tees, ils se trouvent à peu près 40 mètres en moyenne derrière les départs blancs. Donc un joueur qui a un chiffre qui est vers zéro ou un handicap, il va se retrouver 40 mètres devant les joueurs comme Tom cette semaine.
Donc
au DP World Tour,
vraiment des départs faits pour les pros, quoi.
Voilà, c'est ça, il a vraiment créé des départs spécifiquement pour les meilleurs joueurs au monde, pour justement quand le DP World... Donc si tu veux, quand ils ont créé ce parcours, ils avaient déjà anticipé qu'il y aurait le DP World Tour qui viendrait chez nous, et Louis a créé lui-même ses angles, ses départs en fonction de comment lui, en tant que champion,
taper des coups. On le voyait taper des coups, ou
ouais,
essayer,
ouais, ouais. Essayer en tout cas, il visualisait bien, parce qu'à bon, à ce moment-là, il faut savoir que tu l'as vu en plus, il me semble, non, c'était vraiment de la terre-terre, hein, donc il n'y avait pas encore le parcours. Donc si tu veux, lui il visualisait vraiment où il pensait les départs étaient les meilleurs endroits stratégiques. Et ensuite on a Pete Matkovic, qui est donc celui qui était vraiment là sur le terrain quasiment chaque jour. Et là c'est hyper intéressant parce que si tu veux, nous on a deux parcours à Heritage Golf Club, donc la réserve golfing, c'est le château. Et
le château qui a reçu un tournoi du tour régulièrement, et même où Antoine Rosner avait terminé deuxième. Enfin, qui avait perdu même en playoff.
Il a perdu en playoff face à Rasmus Højgaard, donc un très très gros joueur. Il a perdu en trois trous de playoff. Ils avaient joué trois trous de playoff. Antoine a fait birdie, 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 et Rasmus a fait birdie, birdie, eagle. Donc ça a donné un playoff monumental. On était hyper contents. Et donc on l'a reçu trois fois le DP World Tour, hein, sur le château. Et donc le château, il est complètement différent de la réserve. C'est vraiment le jour et la nuit qu'on a l'impression que ces deux architectes complètement différents. Et c'est là où on l'a énormément félicité en interne, parce qu'on lui a dit le fait d'avoir créé deux parcours qui se ressemblent pas du tout sur un même terrain est juste quelque chose d'exceptionnel.
On en parlait, Tom, avoir un joueur comme Louis Oosthuizen cette semaine, ou tu l'as vu d'ailleurs la semaine dernière à Leopard Creek, se frotter à ce genre de joueur-là. Quand on les voit, on essaye de regarder, mais on reste aussi un peu dans sa partie. Comment, c'est compliqué d'être entre spectateur, acteur
Non, bah avant ou après la partie, oui, c'est, enfin, pour moi qui viens d'arriver, je suis un peu, j'ai un peu l'œil enfantin et j'admire tellement de joueurs qui sont là que c'est un peu, voilà, je suis un peu en apprentissage aussi d'essayer de piocher certaines choses qu'ils font parce que je sais que ça va m'aider à être meilleur. Par exemple, j'ai raté le cut la semaine dernière, donc je suis allé le suivre. Le samedi, je suis allé le suivre. Il jouait avec Eric Van Rooyen en plus. Donc, je suis allé les suivre parce que je me suis dit que j'allais sûrement mieux apprendre que rester 5 heures au practice à taper des balles. Donc voilà, j'essaye de faire ça le plus souvent possible. Je l'ai fait sur le change tour, à suivre des gars quand je ratais les cuts.
Et qu'est-ce que tu regardes justement quand on regarde un joueur comme Louis Suzen ou Eric Van Rooyen, qu'est-ce qu'on regarde toi en tant que joueur pro?
Moi, je regarde surtout leur attitude après les coups. Parce que les échanges avec les caddies, on les entend pas, même si on n'est pas loin. Donc l'attitude après les coups et la manière de faire, c'est vraiment, voilà, c'est des... En tout cas, Louis Oosthuizen, de ce que j'ai pu voir sur les trous qu'il jouait, en plus c'est la journée où il fait moins 9, c'est vraiment reste très patient, joue les bonnes zones et attend, voilà, putt à la bonne vitesse, et quand il en glisse, quand il glisse des putts, ça va bas tout de suite, et quand il glisse pas, bon bah, il continue à avancer, c'est vraiment un métronome.
C'est bluffant.
Bluffant non, parce que je sais que j'en suis capable et je l'ai déjà fait, donc c'est juste que dans les moments où j'ai du mal, comme cette semaine où j'ai eu du mal sur un parcours aussi dur, bah, le voir, des fois ça peut faire du bien.
Ouais, et en fait, ce que j'adore dans l'analyse de Tom, c'est toutes les choses qui sont non mécaniques. Je sais pas si t'as remarqué, mais souvent quand on va regarder nos meilleurs joueurs, la première chose qu'on va regarder, c'est la technique de swing,
le swing.
Ah, tiens, regarde comme il tape loin, etc.
Surtout le swing de Louis Oosthuizen, qui est considéré comme l'un des plus beaux du monde.
Ouais, ouais. Et en fait, ce qui est, moi, je trouve intéressant, c'est que lorsqu'on va regarder un tournoi comme cette semaine sur DP World Tour, c'est la technique, c'est tellement compliqué. Alors déjà, on va jamais essayer de répliquer le swing de quelqu'un d'autre parce qu'on a chacun son propre swing. Mais de deux, on est face à des athlètes de très très haut niveau. Donc je veux dire, quand on est 15 ou 20 ou 25 d'handicap et quand on va regarder là je me mets ma casquette de coach, hein, quand on va regarder un tournoi du DP World Tour, analyser les comportements des joueurs, c'est quelque chose qu'on peut tous faire. Et quand Tom parle de l'attitude de Louis après un coup, je trouve ça hyper intéressant parce que le après coup, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde sous-estime. Et pourtant, c'est ce qui va calibrer le prochain coup. Notre attitude face au coup qu'on vient de jouer va déterminer l'attitude qu'on va avoir sur le prochain coup. Donc, toi, qu'est-ce que tu as retenu justement de Louis dans les moments où tu l'as vu? Est-ce que c'était plutôt positif, neutre? Est-ce qu'il était frustré quand il a tapé un mauvais coup? Comment est-ce qu'il réagissait?
Moi, ouais, très neutre. C'est pas ma façon de faire. Donc, j'ai pas envie de faire comme Louis Oosthuizen.
Ce qui est très compliqué, ouais, de rester neutre d'ailleurs. On est tous golfeurs et de pas réagir, d'être plutôt neutre. En tout cas pour moi c'est ce qu'il y a de plus compliqué.
Ouais, il faut être soi-même aussi et pas essayer de répliquer quelqu'un. Moi, bah, je suis quelqu'un qui montre beaucoup quand c'est positif, je vais pas essayer de faire du Louis Oosthuizen, mais c'est vrai que des fois sur certains mauvais shots où moi je peux être en réaction,
t'es plus Tyrell Hatton sur certains shots, non? C'est ça.
Non, je pense pas,
mais
c'est important.
Il y a un système d'ancrage en fait qui se passe, hein. Donc en fait, je garde la casquette de coach, mais quand on a un après-coup et qu'on met beaucoup d'émotions à un coup, on ancre cette émotion, donc dans le positif comme dans le négatif. Donc le négatif, ça peut nous servir si on sait comment s'en servir après. Un joueur comme Tom par exemple, il va savoir comment s'en servir après, il va être frustré, énervé, mais ça va peut-être le motiver pour le prochain coup. Mais si on continue dans cet aspect négatif sur le prochain coup, par exemple, oh là là, je suis nul, je suis ci, je suis ça, bah là,
rester sur ce coup là et sortir de la partie,
voilà, c'est ce qu'il faut pas, c'est, il faut pas sortir de la partie, il faut que ça nous serve, positif ou négatif, il faut que ça nous serve pour le prochain coup.
Alors justement, il y aura également Antoine Rosner cette semaine. Antoine Rosner qui est le tenant du titre. Il a gagné.
Il aime bien ce tournoi parce qu'il a fait deuxième et premier. Hein,
il a gagné l'année dernière sur le golf de Montchoisy. Ouais. Et justement, on va l'écouter. Il va nous rappeler ses souvenirs sur ce golf de Montchoisy, Antoine.
C'était incroyable, je ne pouvais pas rêver meilleure façon de terminer l'année, c'était juste fantastique. Je me suis senti comme à la maison ici à l'île Maurice, donc c'était du pur plaisir. J'espère revivre ce genre de moment hyper régulièrement, mais c'était incroyable. C'est jamais simple de gagner, c'est toujours super dur. Nos nerfs sont testés sur chaque trou, sur chaque coup, donc j'ai su garder la tête froide. Les 9 premiers trous m'ont vraiment aidé ce matin, donc non, franchement, hyper heureux. C'est beaucoup plus dur, on sait qu'il y a tout le monde qui est en course pour nous rattraper et nous on veut défendre un résultat, mais défendre est un mauvais mot parce qu'il faut continuer à attaquer, donc c'est ça le plus dur à gérer et je crois que je l'ai très bien fait.
Antoine, revenir à l'île Maurice, ça fait toujours plaisir, en tant que tenant du titre surtout, c'est une semaine que tu pouvais pas louper.
Non, c'est sûr, c'est toujours une semaine assez particulière, je trouve. J'adore venir ici, c'est du pur plaisir, il faut juste regarder autour de nous pour se dire qu'on a quand même beaucoup de chance de faire ce métier. C'est une semaine où je pense que tous les joueurs prennent vraiment beaucoup de plaisir et c'est rare dans notre métier parce qu'on voyage dans des endroits parfois où on fait grise mine tout simplement et là voilà, on a tous le sourire, on est tous heureux. J'ai pas encore joué le parcours mais il a l'air fantastique, donc voilà, très heureux d'être ici.
Quel souvenir tu gardes de ta victoire de l'an dernier? C'est forcément des bons souvenirs. C'est quoi les sensations qui restent?
C'est beaucoup de bonheur. C'était beaucoup de pression le dimanche, surtout sur les 9 derniers trous. Quand je me suis retrouvé avec 5 coups d'avance et 9 trous à jouer, c'était la première fois que je me retrouvais dans cette situation. Et je m'en suis très bien sorti. Mais voilà, le souvenir qui me reste, c'est beaucoup de pression et un grand soulagement une fois que ça s'est terminé. Et voilà, de soulever ce trophée après l'échec de 2019, c'était que du bonheur.
Revenir en tant que tenant du titre, c'est un petit peu plus de pression forcément, on se sent attendu?
Ouais, bien sûr, après c'est différent parce que c'est pas le même parcours, donc je pense que c'est deux situations quand même complètement différentes. Je vais essayer de faire un bon boulot demain pendant le programme pour préparer ce tournoi du mieux que je peux. C'est pas facile, on est arrivé très tôt ce matin là, à 5h30 à l'aéroport. Donc, je ne suis pas forcément dans les meilleures dispositions là aujourd'hui, mais je vais essayer de me préparer du mieux que je peux et essayer de faire aussi bien que l'année dernière.
Quand on découvre un parcours nouveau comme ça, quelle est ta méthode à toi? Tu essayes de prendre des informations avant.
Alors, la chance que j'ai eue, c'est que mon caddie Patchy a marché le parcours aujourd'hui déjà. Donc demain, pendant le programme, déjà je vais savoir où il faut aller. Donc ça va me faire gagner du temps. Maintenant, pour moi, le plus important demain, ça va être prendre contact avec l'herbe, voir comment les greens réagissent, la vitesse des greens, l'impact que le vent peut avoir. Ça va être des points vraiment très importants. Il va falloir pas que j'hésite à remettre des balles demain pendant le programme. Et voilà, essayer d'être le plus près possible jeudi.
La saison a été longue, 2023, là c'est déjà la saison 2024. Il y a encore du jus, on est encore...
Ouais, en fait, je me suis mis dans la tête qu'on n'avait plus de saison, en fait. Ça s'arrête jamais, en fait. On a 2 semaines, 3 semaines off par-ci, par-là, mais ça se joue en continu. Même à la fin de ce tournoi, je vais pas forcément décompresser plus que ça parce que dès le 3 janvier, je repars à Dubaï pour la reprise de l'année 2024. Donc ça va aller hyper vite. Je crois que c'est juste la vie du golfeur pro sur le circuit, ça s'arrête jamais. Donc il faut juste. Ouais, ça me plaît, c'est sympa. Je sais pas si je vais tenir 25 ans comme ça, mais en tout cas pour l'instant, tant qu'on joue bien, qu'on est dans une bonne dynamique, c'est quand même beaucoup de plaisir. On joue des super parcours, donc c'est prenant. Ouais.
Voilà, messieurs, Antoine Rosner qui vient ici dans la peau du champion en titre. Forcément, Tom, Antoine Rosner et tout le clan français, ils t'ont bien accueilli. T'as pu les voir pour l'instant, ou c'est des joueurs que tu connais de toute façon?
Ouais, je les connais parce que j'ai la chance de m'entraîner dans une région où tous ces gars-là viennent de temps en temps. Donc je les côtoie, j'ai fait pas mal de parties avec eux, mais oui, ça s'est très bien passé. Ils m'ont tous félicité de ma montée et donc je suis très heureux d'arriver parmi eux. Et c'est des mecs que, pareil, je regardais à la télé depuis peu. Donc c'est forcément ça fait quelque chose de dîner avec eux, de
faire
jouer
partie
avec
de leur clan finalement.
Ouais, c'est ça. Alors après, ça reste un sport où on doit faire chacun notre manière de faire justement et pas essayer de reproduire celle des autres, mais s'en inspirer, pour moi ça reste important. Et donc piocher des petites choses par-ci par-là des meilleurs joueurs français. Voilà, Antoine Rosner qui est multiple vainqueur sur le tour, etc. C'est que forcément il fait des choses au-dessus du lot, et donc j'essaye de m'en inspirer.
Avoir un Antoine Rosner, tout ce clan français qui va être là, il y aura aussi Mathieu Pavon qui lui va dans
Incroyable.
Quelques semaines sera sur le PGA Tour. Ouais. C'est pour héritage et pour le tournoi, c'est un éclairage et c'est une...
On a un super beau plateau français. On a Alexander Levy aussi, Mathieu Pavon qui vient de se qualifier sur le PGA Tour, Mike Lorenzo Vera. On a vraiment des gros noms en fait. On a des noms qui portent du poids quand même, qui nous fait du bien parce que c'est toujours la Freja Bank, c'est un tournoi qui a pas la plus grosse dotation du circuit, on le sait, mais qui attire énormément de joueurs par sa destination et par le fait que les joueurs se mettent un peu en condition pour le début d'année 2024. Pour en revenir sur Antoine, moi, c'est un joueur que j'adore et c'est un champion.
avant même d'avoir gagné sur le circuit, je voyais l'attitude qu'il avait à la Freja Bank il y a quelques années ici, avant même de gagner l'année dernière. La petite histoire en fait que les gens ne voient pas forcément à la télé, c'est que Antoine en fait était en trois trous de playoff, très intense, birdie birdie birdie. Rasmus, comme je te dis, il fait birdie birdie eagle. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, les caméras sont braquées sur Rasmus quand il rentre ce putt. Et donc toute la foule l'acclame, tout le monde applaudit, tout le monde court vers lui, il y a le champagne qui l'arrose. Et à ce moment-là, ce qu'on voit pas, c'est le joueur perdant dans le playoff qui est complètement mis à l'écart en l'espace de quelques secondes. Et en fait, à ce moment-là, j'étais sur le bord du green et je le vois et je vois tout le monde courir vers Rasmus comme si Antoine, limite, n'existait pas. C'est assez dingue. Et là, tu as un jeune joueur, je sais pas, 10-12 ans, qui vient voir Antoine. Il lui demande son gant.
Pour le consoler, pour le réconforter.
Non, il lui demande un autographe et il lui demande s'il peut avoir son gant. Mais quand je te dis 10 secondes après que Rasmus est rentré son pote, quoi. C'est-à-dire qu'Antoine, il a même pas le temps d'assimiler ce qui vient de se passer, que tu as un jeune joueur qui vient le voir. Donc imagine, je sais pas moi, tu as 20 personnes qui arrivent vers le gagnant et tu as un jeune joueur de 10-11 ans qui vient voir Antoine. Et Antoine, à ce moment-là, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il lui signe son gant, il lui fait une petite photo. Et ensuite, le petit repart avec le smile, mais jusqu'à là. Et là, moi, j'ai vu Antoine, j'étais à une vingtaine de mètres de lui. Et là, j'ai vu un champion avant même qu'il gagne sur ses... Et ça, c'était vraiment très, très beau.
L'attitude,
c'est là où on voit
champion.
L'attitude de champion absolument incroyable. Dans les moments de défaite, c'est là où on voit vraiment ces joueurs-là, en fait, qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Et j'étais vraiment en admiration quand j'ai vu ce moment-là. C'était l'un de mes plus beaux moments sur le circuit en voyant un tournoi. C'était vraiment très, très beau.
Alors évidemment, Tom, cette victoire, la recherche de la victoire chez Two Golfer, surtout qu'on gagne très rarement. C'est quelque chose, c'est le Graal forcément quand on gagne, les émotions sont décuplées. Raconte-nous un peu comment on le vit, n'importe quelle victoire qu'on gagne, je pense que c'est important dans une carrière.
Ouais, c'est très important et c'est un accomplissement de tout un travail, ça valide les choses qu'on fait au quotidien, ça montre qu'on est dans la bonne direction aussi, parce que empiler 3 ou 4 tours d'affilée, c'est très très dur. Donc voilà, j'ai hâte de regoûter à cette victoire, même si... Là, ces dernières années, j'ai quand même beaucoup gagné, mais c'est clair que sur le DP World Tour, sur un 4 tours, c'est différent et j'ai hâte de vite goûter à ça. Ouais.
Justement, parmi tous ces joueurs du Tour européen, tu te situes comment, toi, quand tu te... Voilà, Tom Vaillant aujourd'hui, c'est comment tu te situes au milieu de tous ces joueurs?
Je me situe... Ouais, je me pose pas trop la question. Je sais que je peux battre tout le monde. Les Français, par exemple, au championnat de France Pro, il y avait... pratiquement tout le monde et j'ai gagné le tournoi, donc gagner un tournoi, ça me paraît pas impossible. Maintenant, c'est garder un niveau de jeu plus élevé que les autres sur toute une saison, c'est un autre objectif et oui, je sais que je peux battre tout le monde. Maintenant, le but, c'est de garder ce niveau là toute une saison et pendant les 20 prochaines années.
Tu poses une question une question un peu compliquée là, parce que tu vois, un joueur qui est de ce calibre qui arrive, dans sa tête, il sait qu'il doit battre tout le monde. Tu vois, donc en fait, comment tu te positionnes, lui, dans sa tête, s'il n'arrive pas dans cette mentalité de « je sais que cette semaine, je peux gagner », je veux dire, lui, il va te dire « pourquoi je suis là ?» Enfin, hein, on est là, donc, et en même temps, on sait qu'on n'a pas envie de paraître non plus prétentieux en disant ça, mais la réalité, c'est que un champion comme Tom, il va être là en se disant « moi, je sais que je suis capable de gagner ce tournoi, donc comment je me situe ?» Je me situe plutôt en bonne position.
Mais justement, est-ce que cette victoire au championnat de France devant tous les meilleurs Français a été une sorte de déclic où tu t'es prouvé que tu pouvais gagner face à ces grands joueurs-là aussi, c'était important.
Ouais, gagner quand ils étaient là, c'est sûr que je ne l'avais jamais fait. Après, j'avais gagné aussi beaucoup d'autres tournois pendant ma carrière amateur, plus ou moins gros, avec des plus ou moins gros champs de joueurs, mais ma première victoire en tant que professionnel, c'est sûr que ça marque, et je m'en souviendrai longtemps, et avec les meilleurs joueurs français, il y avait un nombre incalculable de victoires sur le Tour européen sur cette semaine-là, donc c'est sûr que ça m'a aidé pour ma saison du Challenge Tour. Et petit à petit, j'ai coché les étapes et je pense que ça fait aussi partie de mon évolution pour arriver vite sur le DP World Tour.
Lewis, je vais poser une question plus sur le parcours. Cette semaine, on sait que c'est un parcours jeune. Quel a été le plus grand défi pour l'équipe et pour le greenkeeper sur ce parcours?
Qu'il soit prêt. Qu'il soit prêt pour le DP World Tour, parce que ça fait 7 mois, j'étais venu au mois de mai et je l'avais vu, et puis là, à ce moment-là, il n'était pas du tout prêt. Mais donc, au mois de mai, quand on se dit, on va accueillir le DP World Tour au mois de décembre, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de règles qu'un parcours respecte pour avoir le DP World Tour. Donc, on avait l'équipe du DP World Tour qui venait plusieurs fois dans l'année pour voir un peu
ça, l'état. C'est du stress pour l'équipe.
Ouais, c'est un énorme stress. Il faut savoir que le clubhouse, on l'a fini le jour de l'ouverture, c'est-à-dire le week-end dernier. Je ne sais pas si tu as vu le clubhouse, mais du coup, le clubhouse, je veux dire, on est quoi ? Il y a une dizaine de jours. Le dernier jour, ils étaient en train de passer le balai. Donc, c'était vraiment à la dernière minute. Mais voilà, à partir du moment où tu as une deadline, tu la respectes. Mais pour nous, le plus gros défi, c'était qu'on ait un parcours qui soit assez challenging pour les joueurs, pour que quand ils arrivent, justement, ils disent « Ouais, ok, le parcours, il est solide. » Alors évidemment, le parcours n'est pas à 100% encore. On aurait bien voulu avoir encore une bonne année devant nous pour que le parcours mûrisse un peu. C'est normal, c'est un tout nouveau parcours. Mais là, dans ce qu'on a réussi à sortir en quelques mois, dans les derniers mois, enfin, quand on voit l'état des greens et enfin, tout ce qui contourne le parcours, on est hyper satisfait de notre travail.
Ouais, justement, on va l'écouter, le greenkeeper, qui nous dit quelques mots sur ce parcours.
Écoutez, pour le parcours, la construction, c'est un projet qui a pris pas mal de temps de plus que prévu. Ça devait être un projet de deux ans et demi, mais avec le Covid, on a eu pas mal de délais. Pas de notre choix, mais c'est arrivé. Donc, on a fini par finir le terrain 5 ans et demi après le début de construction. Et on est arrivé aujourd'hui à pouvoir préparer un terrain pour le tournoi, malgré les contraintes de temps.
Le défi quand on organise un tournoi dès la première année d'ouverture, c'est un défi immense pour vous?
Oui, c'est un défi immense. Ouais, idéalement, c'est toujours d'avoir plus de temps. Si on peut avoir plus de temps, on ferait ce qu'on veut, mais ouais, parfois, il faut faire ce qu'il faut. On a une équipe quand même assez costaud, on a entraîné pas mal de gens pendant les deux dernières années avec des nouveaux employés, on a pris quelques gens du premier golf, des gens avec beaucoup d'expérience qui sont venus sur ce golf-là pour pouvoir nous donner un coup de main et entraîner les jeunes qu'on a pris, les nouveaux qu'on a pris. Et le reste, ouais, c'est un peu de mettre la main à la pâte et d'arriver à la fin.
La principale difficulté, c'est quoi? C'est que ce soit suffisamment mature, même si on sait qu'un parcours, c'est peut-être au bout de 2 ou 3 ans qu'il devient complètement mature. C'est quoi? C'est les greens? C'est plus les fairways? C'est quoi la
C'est un peu tout. On peut commencer avec l'ouverture, enfin, tout le landscaping aussi. Tout ce qu'on voit autour du golf, c'est le mounding, le shaping, la plantation de ce gazon, qui est un gazon annuel. Donc, ça ne pousse pas à n'importe quel moment. Donc, on peut le planter certaines périodes de l'année. Et ça prend quand même 2-3 mois pour prendre et pour se propager. Donc il y a ce côté visuel général du golf qui n'est pas encore au point, on va dire. Avec un peu plus de temps, il tourne mieux. Les greens, ouais, généralement, les greens sont un peu plus durs, un peu plus firm qu'après 1 an ou après 6 mois. Mm-hmm. Le plus on a de temps, le plus on arrive à développer un peu plus de masse
graminée.
Et puis, c'est la rapidité des greens. Les racines, le développement racinaire sur les greens pour que le green puisse tenir la pression sur laquelle va être pour la préparation du tournoi.
Vous êtes content malgré tout de l'état dans lequel est le parcours maintenant?
Je suis content, ouais. Alors, on disait que j'aurais préféré avoir un peu plus de temps pour les greens. Les fairways ont très très bien pris, les roughs sont corrects. Ouais. Le landscaping autour, il y a des endroits, pareil, s'il y avait un peu plus de temps, ça aurait été bon. Mais le principal, c'est les greens qui vont... Avant, on disait stresser un peu sur quelques endroits, mais ça s'améliore de jour en jour. Et on va parler avec quelques joueurs et quelques organisateurs. Le feedback, quand même, est assez positif pour l'instant. Donc...
Voilà, le greenkeeper, évidemment, gros défi cette semaine, répondre aux exigences des 4 tours. C'est ça aussi l'un des défis. La météo sera de la partie. On a vu qu'il avait quand même pas mal plu ces derniers jours et les parcours ont été pas mal subis.
Ce qui va être difficile, en fait, c'est que le temps est très instable dans le sens où on ne peut pas regarder la météo aujourd'hui pour dans 4 jours. C'est impossible. C'est-à-dire que la météo, elle peut me dire qu'il y a de la pluie, il peut faire beau et inversement. Donc, il va falloir être très très patient, les mots utilisés par Tom, et se dire que la veille, il faut bien regarder la météo, voir. Là, au moment où on est en train de se parler, la météo est plutôt pas mal, mais en fin de semaine, on a quelques dangers qui peuvent potentiellement arriver. Mais encore une fois, c'est l'île Maurice et on sait que sur une île tropicale, tout peut changer du jour au lendemain.
Tom, après ce tournoi-là, ça va être un peu de repos, bien mérité, et ça va être quoi ton programme ensuite?
Ouais, donc là je vais rester 2 jours sur place pour profiter un peu
du
cadre, ouais, purement vacances, sûrement pas rejouer au golf, mais profiter du cadre qui est magnifique, parce que c'est la première fois que je viens ici, et après, à partir du moment où je rentre, je vais reprendre tout de suite l'entraînement. Pour préparer Dubaï en début d'année, parce que je penserai attaquer, en tout cas j'espère, sur le Rolex Series. Donc je vais avoir besoin d'arriver en forme et après enchaîner les tournois dans l'Émirat et tout ce qui en suit pour la saison.
Ouais, moi je vais te poser une question avant qu'on se quitte, parce que je trouve ça hyper intéressant ce début de saison qui finalement est en fin d'année. Mais c'était vraiment important pour toi de démarrer cette saison avant le début d'année qui est janvier, donc avant Dubaï, de venir faire ces 2-3 tournois pour un peu te mettre dans la dynamique du DP World Tour et de voir un peu les différences entre ce que tu as connu jusqu'à présent et puis maintenant ce qui t'attend pour les prochaines années?
Alors la volonté, j'avais envie de me reposer et me préparer parce que physiquement je sens que j'ai un peu perdu cette saison. J'ai laissé beaucoup de plumes sur la fin d'année, c'était très exigeant. Mais je voulais revenir quand même pour goûter à la pression et surtout garder mes routines toujours très naturelles. J'ai pas envie d'arriver à Dubaï et de me dire ok, bon, au putting je connais par cœur tout ce que je fais, mais j'ai pas envie que ce soit rouillé et un peu perdu, et j'ai envie que
donc il y a eu trop de repos en fait entre
Ça, il y aurait un tout petit peu trop de repos, donc j'avais envie de garder un peu la pression et l'adrénaline pour pas être surpris.
Et est-ce que les parcours que tu connais sur aujourd'hui et la semaine dernière sont très différents de ceux que tu as connus sur le Challenge Tour?
Ouais, ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir.
Alors, niveau de la préparation et des. Et du...
Non, alors à la préparation, oui, les gains étaient très rapides la semaine dernière, mais je pense que c'est propice à aller au Park Creek parce que je l'ai joué en tant qu'amateur et c'était très très dur aussi. Mais dans les positions de drapeau, déjà, c'est vrai que c'est différent. Moi, ça m'a un petit peu surpris.
Plus dur.
Ouais, beaucoup plus dur. Donc, c'est sûr que ça, il faut s'adapter. Et puis, tout est allé très vite. Donc, l'année dernière, j'étais entre guillemets sur l'Abs Tour. Donc, c'est sûr que Abs Tour change tour, ça fait beaucoup de différence en peu de temps. Donc, il faut que je m'adapte.
Et cette semaine, les greens sont rapides. Ça va être quoi?
Le DP World Tour nous a demandé à ce qu'on les mette à pas plus de 10.
Donc en fait, correspond à...
C'est plutôt 11 normalement. Hein, donc peut-être que tu as connu 11. Ils étaient tu sais ou pas
hein? La semaine dernière, ils étaient à 12,8. Ouais. Donc c'était très très rapide.
12,8, c'est billard. Ouais,
là, c'est les vacances alors. C'est ça va être facile.
Non, en fait, ils nous ont demandé 10 justement par rapport à la météo, le vent. Donc si en plus de ça, on les met à 11-12, on pourrait. Hein, mais on a eu une demande du tour pour les garder aux alentours de 10 en tout cas.
Allez, dernière question. Tom, est-ce que tu as déjà des tournois qui te font rêver l'année prochaine, que tu as déjà cogé sur le calendrier, ou là, ça va être des passages obligés?
J'ai un... Vu que je suis fan de golf et que j'ai toujours regardé à la télé, quand j'arrive à l'étape de l'Europe, j'ai envie de tout jouer parce que clairement, il y a tous les tournois qui me font rêver. Mais il faut bien faire la part des choses, il va falloir faire des sacrifices en termes de tournois parce que je peux pas tout jouer et je connais mon rythme de jeu et je suis pas quelqu'un qui arrive à être performant sur 5-6 semaines d'affilée comme certains font. J'ai besoin de couper et ça va falloir faire des choix, mais oui, le calendrier est déjà fait.
Allez, en tout cas, on espère que tu vas vivre une bonne semaine et pourquoi pas succéder à Antoine Rosner au palmarès de l'épreuve, ça serait top. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Wallace d'avoir fait partie de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à Hugo Ponce à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.